Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 5h en temps universel, 6h à Paris, 8h à Mamoudzou. Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Journée de deuil national aujourd'hui en France. Une minute de silence sera observée en fin de matinée après le passage du cyclone Chido à Mayotte. Bilan toujours très incertain, au moins 35 morts, mais les autorités craignent que ce ne soit beaucoup plus. Les recherches continuent. La France qui n'a toujours pas de nouveau gouvernement. On attendait une annonce hier soir, mais rien. Ce pourrait être pour aujourd'hui ou pour demain. Dans ce journal également, la visite du ministre turc des Affaires étrangères à Damas. Il a rencontré le nouvel homme fort syrien auprès duquel il a plaidé pour la dissolution des groupes armés kurdes de Syrie. Un reportage à suivre également dans le camp de déplacés d'Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, un camp où l'on s'inquiète d'une résurgence des activités du groupe État islamique. On sera aussi au Mali, où la figure politico-médiatique Issa Kaoundjim doit être jugée aujourd'hui pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information, en l'occurrence pour des propos tenus sur la chaîne Joliba TV. On sera également en Birmanie, où la junte pourrait avoir perdu le contrôle d'une nouvelle base régionale. Un groupe rebelle dit en tout cas s'en être emparé. Et puis on terminera en musique avec le nouvel album du français Sanseverino. À Mayotte, les secours toujours à l'œuvre pour rétablir l'eau, l'électricité et les réseaux de communication après le passage dévastateur du cyclone Chido sur l'archipel français le 14 décembre dernier. Il a fait au moins 35 morts, mais ce pourrait en réalité être beaucoup plus difficile, voire impossible, d'établir un bilan précis dans ce département le plus pauvre de France. La totalité de l'habitat précaire a été détruit. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu sur place la semaine dernière pour constater les dégâts et il a annoncé un jour de deuil national partout en France. Ça a lieu aujourd'hui, lundi. Une décision avant tout symbolique pour les Mahorais de métropole. Reportage de Lou Ecal.
Des drapeaux en berne et une minute de silence. L'hommage est nécessaire pour Faël, étudiant Mahorais qui habite à Paris.
Symboliquement, c'est quelque chose d'important pour les Mahorais, pour tous ceux qui ont subi surtout cette violence-là du cyclone. Il ne faut pas du tout les oublier, que ce soit à Mayotte, partout en France, même à l'étranger. Il faut qu'on connaisse que ce jour-là, Chido a fait un massacre à Mayotte.
Karim, lui, est ingénieur en mathématiques appliquées et il partage l'avis de Faël.
C'est important pour les victimes, sentir qu'on les a pas oubliés, qu'on pense à eux et qu'on est quand même là. Et il ne faut pas aussi oublier cette date et ce moment, en fait, parce que c'est quand même quelque chose d'historique et il faudrait qu'à l'avenir, ça ne puisse plus se reproduire.
Asma Faradji préside une association d'étudiants mahorais. Pour elle, ce jour de deuil...
C'est un petit pas, mais ça ne suffira pas. Mayotte est détruite à 90%. Donc ça mettra des années à se relever. Il nous faut plus d'aide. On aura besoin d'experts pour rétablir l'électricité, pour remettre les maisons sur pied. Un simple deuil national ne suffira pas.
À 11h, comme Karim, Faël et de nombreux Français, elle se recueillera pendant une minute en hommage aux victimes de Chido.
Et on sera en direct de Mayotte dans le journal de 7h, heure de Paris, avec nos envoyés spéciaux Nicolas Feldman et Jadel Khoury. Ils ont pu se rendre dans un bidonville du nord de Mamoudzou, où la population espère l'arrivée prochaine de davantage d'aide humanitaire, alors que de l'eau et des vivres ont commencé à être acheminés par avion et par bateau. Et puis la députée Estelle Youssoufa sera notre grande invitée ce matin sur RFI, entretien avec Julien Coquel-Rohem aux alentours de 7h20. Journée donc de deuil national pour les victimes de Mayotte ce lundi. Journée que voulaient éviter les autorités françaises pour annoncer la composition du nouveau gouvernement, sauf qu'il n'a pas été dévoilé hier soir. Or, l'objectif du Premier ministre français, François Bayrou, c'était de le faire avant Noël. Ça laisse assez peu de possibilités, soit aujourd'hui, soit demain. En tout cas, son entourage l'assure, on en est au dernier réglage et il a pu s'entretenir par téléphone puis en face à face hier avec le président français. L'équation reste délicate, former un gouvernement capable d'échapper à la censure d'une Assemblée nationale morcelée. En Syrie, toutes les armes du pays vont passer sous le contrôle de l'État, annonce du nouvel homme fort du pays, Abou Mohammad al-Joulani, le chef du groupe Ayat Tahrir al-Sham, celui qui a mené la coalition rebelle conduisant au renversement du régime de Bachar al-Assad il y a maintenant 2 semaines. Nous ne permettrons absolument pas que des armes échappent au contrôle de l'État, qu'elles proviennent des factions révolutionnaires ou des factions présentes dans la zone des forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes, a-t-il déclaré, aux côtés, et ce n'est a priori pas sans lien, du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, qui a fait le déplacement à Damas. Pas sans lien, disais-je, car s'il a été question pendant cette rencontre du retour des réfugiés et de la levée des sanctions occidentales contre le groupe HTS, le chef de la diplomatie turque voulait aussi, et peut-être surtout, parler des groupes armés kurdes de Syrie, dont il réclame la dissolution. Il a même appelé Washington à lâcher ces groupes, qui étaient pourtant les alliés des occidentaux dans la lutte contre les terroristes de l'État islamique. Alors cet appel ne manque pas d'ambivalence, nous dit Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS.
Il y a un opportunisme de la part de la Turquie qui est d'agir le plus vite possible avec l'acteur qui est au pouvoir d'Hamas. Ils ont su, probablement avant les Occidentaux d'ailleurs, que Hayat Tahrir al-Sham serait l'acteur à suivre. Elle veut immédiatement occidentaliser cet homme. Pourquoi elle a besoin de l'occidentaliser? Pour ses intérêts propres, bien évidemment. La Turquie a besoin de dire à Paris, à Londres, à Washington, bah vous inquiétez pas, parce que si on n'a plus nos alliés kurdes, parce que très clairement c'est l'agenda turc d'éliminer la région autonome du Kurdistan syrien, le Rojava, et de dire, bah vous voyez, mais vous inquiétez pas, on aura quand même un acteur fiable, occidentalisé, compréhensible, certes un peu islamiste sur les bords, mais vous savez, nous, en Turquie, la KP est d'orientation religieuse conservatrice, et pourtant, on est bien dans l'OTAN. C'est vraiment ce discours, et de dire, bah, si on se débarrasse de nos anciens alliés kurdes, on aura quand même un intermédiaire pour lutter contre le terrorisme.
Des propos recueillis par Abla Jounaïdi. Mais depuis le changement de pouvoir à Damas, l'inquiétude est là quand même sur une possible reprise d'activité des cellules djihadistes. Inquiétude particulièrement vive dans le nord-est syrien où des centaines de combattants et dirigeants du groupe État islamique sont détenus dans les prisons de l'administration autonome. D'autres encore se trouvent au camp de déplacés d'Al-Hol où s'est rendu notre envoyé spécial Marie-Charles Troupy.
Sur le marché du camp d'Al-Hol où se mélangent des réfugiés irako-syriens et les familles de l'État islamique déplacées après la fin du califat, le nouveau pouvoir de Damas, dominé par le groupe islamique radical HTS, ravive des espoirs enfouis. Abou Jassem espère rentrer à Deir ez-Zor.
On avait peur du régime, mais plus maintenant. Même si on ne sait pas encore ce qui va se passer, au moins quand on partira du camp d'Al-Hol, personne ne va nous traîner devant les forces de sécurité en nous disant qu'on était de Daesh et qu'on était au camp d'Al-Hol. Maintenant, tout ça, c'est fini.
Les autorités, elles, sont en alerte. Les forces kurdes ont accentué la vigilance autour d'Al-Hol. Elles craignent que l'État islamique profite de la situation pour attaquer de l'extérieur ou de l'intérieur. Jihan Koshi, responsable du camp.
On ne sait pas quels sont les plans de l'État islamique et leurs projets. Mais finalement, nous avons 40 000 personnes ici. Si 10 000 d'entre elles organisent une émeute, je ne sais pas quelle pourrait être notre réaction. Ce sont principalement des femmes et des enfants. Al-Hol est une bombe à retardement et elle est prête à exploser.
Dans le secteur protégé destiné aux habitants menacés par l'État islamique, Hamid surveille sur son téléphone leurs canaux de communication.
Certes, il n'y a pas de meurtre actuellement, mais il y a des cellules qui restent actives. On échange des messages sur leur chaîne partagée. Il y a des responsables de Daesh à l'extérieur qui donnent des ordres.
Tout est surveillé pour éviter l'embrasement alors que la coalition internationale poursuit ses opérations contre l'État islamique au sud d'Al-Hol. Maréchal Le Troupy, de retour d'Al-Hol, RFI.
Au moins 35 morts ces dernières 24 heures à Gaza après des bombardements israéliens, bilan de la défense civile de l'enclave. Des frappes ont notamment eu lieu contre une école abritant des déplacés à Gazaville, faisant 8 victimes dont 4 enfants. L'armée israélienne dit avoir mené là-bas une frappe ciblée contre, je cite, des terroristes du Hamas qui préparaient des attaques contre les soldats de l'État hébreu. Les bombardements se poursuivent donc alors que le Hamas et deux autres groupes palestiniens laissaient entendre samedi qu'un accord de trêve à Gaza était plus proche que jamais. Et ce communiqué de l'Oxfam, l'ONG, affirme que sur les 34 camions transportant de la nourriture et de l'eau et qui avaient été autorisés à entrer dans le nord de Gaza au cours des deux derniers mois et demi, eh bien seuls 12 ont effectivement réussi à distribuer cette aide. La faute, nous dit Oxfam, au retard délibéré et aux obstructions systématiques de la part de l'armée israélienne. Jeudi, l'Assemblée générale des Nations unies avait approuvé une résolution demandant à la Cour internationale de justice de se prononcer sur les obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens. Il est 5h09 à Bamako, au Mali, où Issa Kaounjim doit être jugé aujourd'hui pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger, mais aussi injure par le biais de systèmes d'information. Sur le plateau de Joliba TV, cette figure politico-médiatique malienne avait mis en doute la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso. La chaîne malienne, après s'être vue retirer sa licence, a finalement été suspendue pour 6 mois. La profession a d'ailleurs décidé pendant le week-end de rester mobilisée pour obtenir son rétablissement en négociant avec la haute autorité de la communication. Quant à Issa Kaounjim, il doit donc être jugé ce lundi, David Bachet.
Cela fait un mois et une semaine qu'il est en prison. Lors d'une émission de débat sur Joliba TV, Issa Kaounjim avait estimé que les images de ce que la RTB, la télévision d'État burkinabé, présentait comme un flagrant délit de tentative de coup d'État, avaient l'allure d'un montage, au sens de mise en scène, même pas professionnel, visant à détourner l'attention de l'opinion des vraies questions. Ce qui lui vaut d'être poursuivi pour offense et injure contre le président de transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Je n'ai pas entendu d'injures ni d'offenses, s'étonne l'avocat d'Issa Kaounjim, maître Boubacar Soumaré. On entend tous les jours bien pire dans les médias sahéliens. L'avocat va donc plaider la relaxe. C'est la liberté d'expression qui est en cause, juge encore maître Soumaré, alors que Djoliba TV a justement été suspendu au Mali à cause de cette émission. De nombreux observateurs craignent cependant qu'Issa Kaounjim, voix critique de la transition, ne fasse l'objet d'un procès politique. L'ONG de défense des droits humains Amnesty International qualifie cette procédure d'abus des autorités maliennes et burkinabées et rappelle que des soutiens des militaires au pouvoir à Bamako ont tenu des propos bien plus offensants et même menaçants envers des chefs d'État ouest-africains, sans être inquiétés par la justice.
La précision de David Bachet. 29 000 personnes selon la police, 100 000 selon d'autres sources indépendantes. Nouvelle manifestation d'ampleur contre la corruption hier à Belgrade, en Serbie. D'autres cortèges moins fournis ont été observés dans d'autres villes. Les protestataires appellent le président et le gouvernement à la démission. Ça fait 7 semaines que ça dure, depuis en fait l'effondrement du toit d'une gare ferroviaire dans le nord du pays. 15 personnes avaient perdu la vie. C'est un nouveau revers important pour la junte birmane dans sa lutte contre les rebelles. Vendredi, le régime a perdu l'une de ses 14 bases régionales. Une base située dans l'état d'Arakan, à l'ouest du pays. Alors les autorités n'ont pas encore communiqué sur cette information d'un groupe rebelle, mais si ça venait à être confirmé, eh bien ce serait la deuxième base à tomber aux mains des opposants en l'espace de seulement 5 mois, Constantin Jallot.
La conquête de la base de Han dans l'état d'Arakan représente d'abord une importante prise d'armes et d'équipements militaires présents sur place. Mais il y a d'autres avantages, comme l'explique Zachary Alouza, spécialiste en politique et sécurité de l'Asie du Sud-Est à l'université de Georgetown aux États-Unis.
C'est important aussi car il s'agit d'une station de pompage pour l'oléoduc et le gazoduc chinois, ce qui confère à cette base une utilité économique.
De plus, cette base confère à l'armée d'Arakan un avantage géographique.
C'est également le point de passage entre l'Arakan et les régions centrales de Ségué, de Magoué et de Mandalay. Donc s'ils contrôlent cette route d'entrée et de sortie, ils contrôlent en fait toute la logistique terrestre de l'Arakan.
Sans cette base, les futurs ravitaillements de l'armée birmane dans l'ouest du pays seront plus compliqués. Et c'est enfin une nouvelle menace pour les usines d'armement de la junte dans les régions plus centrales de Birmanie, frontalières de l'Arakan.
Un Constantin Jallot. Attention, c'est une phrase que vous pourriez entendre à table à Noël. C'était mieux avant, si ça a le don de vous énerver. Sachez que pour Sanseverino, c'était mieux maintenant. C'est d'ailleurs le titre du nouveau disque que nous offre le guitariste, auteur, compositeur et interprète, qui double le cadeau sous le sapin avec une nouvelle tournée. Morceau choisi avec Edmond Sadaka.
Titre énergique, engagé, comme par exemple Zéro Travail. Le texte évoque les inégalités sociales et surtout la manière dont les artistes s'emparent de ce thème depuis fort longtemps.
Nous sommes devenus tous abominables fonctionnaires de la chasse, contestataires.
On est très loin ici du registre des débuts de Sanseverino, quand la guitare manouche, style Django Reinhardt, régnait en maître.
Je voulais pas faire tous mes albums de la même manière, donc le swing j'ai arrêté, j'ai commencé à prendre un peu du large. Je continue toujours à écouter Django, je pense que c'est même un des rares que j'écoute toujours. Je pratique toujours la guitare swing, voilà, comme ça, j'aime bien.
Initialement prévu pour être enregistré en Afrique, au Mali et au Sénégal notamment, c'est finalement à Bruxelles, en Belgique, que l'album a été réalisé, avec des musiciens venus d'un peu partout en Europe et avec des arrangements qui mélangent le rock, le blues et l'afrobeat.
La température grimpe, bientôt 50 degrés. J'ai pas la solution pour passer cet été. Je m'informe et j'observe, j'aime être concerné. Je zappe de chaîne en chaîne, y a rien à en tirer. J'achère, capitalisme, ne font pas bon ménage. Il faut que ça produise, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Si la terre est fertile, l'humanité aussi, prolifique en missiles.
Et dans le cadre de sa tournée, Sanseverino sera à la Bellevilloise, à Paris, ce dimanche. Merci d'écouter RFI, il est 6h14 à Paris. Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure maintenant. D'ici là, on va jeter un œil à ce qui fait la une de la presse française ce matin. Et pas de une sur le nouveau gouvernement, puisqu'il n'y en a toujours pas, mais ça n'empêche pas les grands quotidiens de s'interroger sur ce nouveau report, alors qu'on attendait une liste de ministres ce week-end et qu'elle n'est jamais tombée. Le début ce matin d'une série consacrée au rire en France. C'est pour ce premier numéro, direction Lille, où à la rencontre d'un nouveau venu dans le milieu du stand-up, le seul en scène sans accessoires, sans décor, une pratique qui se démocratise vite dans le pays. Et puis on sera en Colombie aussi, dans la vallée du Cauca, pour parler de l'impact à la fois social et environnemental de l'industrie de transformation des plantations de canne à sucre. Mais d'abord, la une en Asie, oui mais en direct de Londres, où vous êtes notre correspondante. Sarah Menahi, bonjour.
Bonjour Gaëtan.
À Londres, où le prince Andrew, le fils de feu Elisabeth II et le frère de l'actuel roi Charles III, fait une nouvelle fois la une de la presse britannique.
Et oui, les scandales autour du prince Andrew continuent de se multiplier. Le 13 décembre, c'est le journal The Telegraph qui a révélé en premier qu'un homme banni du Royaume-Uni parce que soupçonné d'être un espion pour le compte du Parti communiste chinois était un proche confident du prince Andrew. L'homme qui a été publiquement identifié par la haute cour de Londres aurait été, selon les juges, impliqué dans, je cite, des activités secrètes et trompeuses au profit de la Chine. Problème, il aurait aussi été reçu à Buckingham Palace à de nombreuses reprises par le duc d'York.
Et que sait-on de ce personnage et de ses activités ?
Eh bien, l'homme s'appelle Yang Tengbo, c'est un homme d'affaires chinois, jusqu'ici désigné dans la presse britannique sous l'appellation H6, un nom de code. Il est interdit d'entrer au Royaume-Uni depuis un an, depuis 2023, en raison de la menace qu'il représenterait pour la sécurité nationale. Donc après une première condamnation en 2023, il avait choisi de faire appel avant d'être de nouveau condamné à l'exil. Et les juges, eh bien, lui reprochent notamment ses liens donc avec le prince Andrew, comme avec d'autres personnalités britanniques qu'il aurait tenté de mettre en relation avec de hauts fonctionnaires chinois à des fins d'ingérence politique.
Alors est-ce que Buckingham Palace a réagi à ce dernier scandale ?
Alors Buckingham Palace directement non, mais les équipes du prince Andrew ont fait savoir qu'il avait rencontré cet homme d'affaires chinois par le biais de canaux officiels sans jamais discuter de sujets sensibles. Enfin, dans un communiqué diffusé la semaine dernière par la BBC, le cabinet personnel du prince assurait alors que le duc n'avait plus aucun lien avec Yang Tengbo.
Et conséquence, Sarah, le prince Andrew devrait être banni du dîner de Noël de la famille royale.
Et oui Gaëtan, selon les dernières informations rapportées par la presse britannique, la crise est d'une ampleur telle que le prince Andrew ne passera pas Noël à Sandringham dans le Norfolk avec le reste de la famille royale, comme le veut la tradition. Il devrait rester dans sa résidence de l'ouest de Londres avec son ex-femme, avec qui il vit toujours, Sarah Ferguson, la duchesse d'York qui se retrouve elle aussi finalement éclaboussée par cette affaire alors qu'elle venait juste d'être réadmise parmi les têtes couronnées puisque l'an dernier elle passait son premier Noël depuis des années au château de Sandringham. Et d'après le tabloïd The Daily Mail, c'est elle qui aurait, en pleine tourmente, fait entendre raison à son ex-mari pour le faire renoncer à ce moment symbolique. Pourquoi ? Eh bien parce que si Noël est un moment cher au cœur de la famille royale, c'est aussi bien sûr un exercice de représentation Noël, pendant laquelle la famille royale s'affiche unie, s'offre un bain de foule, donnant aux Britanniques l'image d'un clan soudé. Et cette année, donc, aucun membre de la famille d'York ne devrait se joindre au Windsor pour Noël.
Merci Sarah Menahi, en direct de Londres pour RFI. RFI, il est 6h18 à Paris, on jette un coup d'œil à ce qui occupe la une de la presse française ce matin. Et c'est le gouvernement Bayrou pour Libération qui titre sur les vacants de Noël. Alors que l'annonce de la composition de la nouvelle équipe ministérielle, promise ce week-end, se fait toujours attendre. Il y a pourtant eu d'ultimes tractations selon le Figaro, selon qui le nouvel exécutif devrait ressembler à l'alliance macroniste LR de Michel Barnier et compter des ministres expérimentés. Mais gare au risque de l'enlisement, met en garde Le Monde. Le deuil et des questions, titre l'Humanité qui nous emmène en Allemagne après l'attentat contre le marché de Noël de Magdebourg qui a fait 5 morts. Les motivations de l'auteur du drame restent floues et à la veille d'élections anticipées, l'extrême droite instrumentalise la tragédie, peut-on lire à la une du quotidien. Le Figaro, lui, nous emmène en Afghanistan où les femmes étouffent sous le joug des talibans, privées d'école au-delà du primaire, subissant l'interdiction de lire ou de prier à haute voix hors de chez elles. Elles sont plus que jamais prises dans l'étau islamiste en dépit des promesses initiales de modération des talibans. Voilà ce qu'écrit le journal. Toute la semaine sur RFI, on vous propose une série de reportages sur le thème du rire. Et ce matin, on s'intéresse au stand-up, un genre comique né aux États-Unis où l'humoriste est seul en scène, sans autre accessoire que sa répartie, sa spontanéité, sa capacité d'improvisation aussi. Le stand-up n'a jamais été aussi populaire, au point que des apprentis humoristes se lancent tous les jours dans l'espoir de vivre de leur passion. Alors certains réussissent. Mais avant le succès, beaucoup se heurtent à un univers exigeant, précaire, souvent concurrentiel. À direction Lille, l'une des places fortes du stand-up en France, à la rencontre de Gaëtan Petit, un nouveau-né de la scène lilloise. C'est un reportage de Baptiste Coulon.
Je vous laisse entre les mains de Gaëtan Petit, un tonnerre d'applaudissements pour lui.
Bonsoir les amis, est-ce que ça va ?
Je suis vraiment content d'être là, moi je viens de Lens, il y a un petit village à côté qui s'appelle Fouquières-les-Lens.
Je dis, ben Lens, niveau activité, t'as de bolard. C'est tout.
Je parle de moi, d'un mec qui vient d'un petit village un peu paumé du Pas-de-Calais, un village dans lequel on y est depuis plusieurs générations, personne ne veut bouger, et moi qui ai des rêves.
Une vie entre les terrils et les corons, c'est ce que raconte le spectacle de Gaëtan Petit. Son rêve, dès le départ, vivre de la scène. Alors il se lance, mais après quelques semaines, les premières interrogations.
Comme j'habite toujours dans ma petite ville, je croise d'anciens copains de l'école par exemple, qui eux ont un métier plus conventionnel. Ils ont acheté leur maison, ils ont un enfant, voilà, ils ont une petite vie bien tranquille. Et moi je me dis, est-ce que ce serait pas plus simple de faire ça quoi ?
Et la première scène de toute ma vie, je l'ai fait dans un bar tabac à Fouquier.
Sur un marché de l'humour saturé, se faire connaître est un défi. Ses premiers spectacles lui remboursent à peine ses frais d'essence.
Il y en a un où vraiment, je crois, je suis resté 3 minutes sur scène, quoi, pas plus. Je fais ma première blague, ça rigole pas, deuxième blague, ça rigole pas, des gens étaient sur leur téléphone, malaise dans la salle, je suis parti pleurer dans un coin.
Mon premier spectacle au spot, Pauline, elle était derrière le rideau.
Pauline, c'est votre femme.
Ouais, ouais, ma femme.
Et vous soufflez les réponses.
Ouais.
5 ans après sa première scène, Gaëtan Petit vit entièrement de l'humour et Giovanni, un producteur, l'accompagne désormais. Il a suivi son ascension.
Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est d'être son propre clown. Il faut réussir à s'assumer, ce qui n'est pas évident. Hein. Puis c'est comme ça que les gens vont pouvoir se déplacer en se disant, bah voilà, lui on le connaît parce qu'il est vraiment vrai dans la vraie vie.
Fouquières, c'est surtout Jacqueline Pignol, dit Madame le maire. Elle fait des trucs bien pour Fouquières. La semaine dernière, on est passé du franc à l'euro.
Est-ce que je suis drôle vraiment ? Tout le temps, on se pose la question.
Le succès n'efface pas les doutes. Gaëtan Petit en a toujours. Mais c'est le meilleur moyen de connaître la pertinence d'une blague.
Faut la tester 10 fois, voir si elle est validée ou pas. Même si c'est 5 bides, au début, faut refaire 5 fois.
Le doute, c'est aussi la recette pour se renouveler et se démarquer, explique son producteur.
Tout le monde a tendance à faire la même chose. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Il y a cet esprit de compétition, de se retrouver tous les soirs sur des plateaux avec d'autres artistes. Forcément, c'est risqué et puis ça fait peur, c'est contraignant.
Je suis venu.
Ce soir-là, à Lille, 40 spectateurs ont ri et chanté avec Gaëtan Petit. Un tiers de la salle remplie, mais une salle conquise.
Tu vas percer, c'est sûr.
Très bien, un grand merci.
Même si c'est pas complet, on passe des bonnes soirées. C'est vraiment le public que j'aime. Il y avait de tout. Et là, tu te dis, je sais pourquoi je le fais en fait.
Un reportage à Lille de Baptiste Coulon. On part ce matin dans la vallée du Cauca, dans le sud-ouest de la Colombie, autour de la ville de Cali. Les plantations de canne à sucre s'étendent sur plus de 230 000 hectares. Cette herbe géante tropicale sert à fabriquer du sucre, des acides pour l'agroalimentaire ou encore de l'éthanol pour les biocarburants. Née il y a plus de 150 ans, cette puissante agro-industrie dont l'histoire est liée à l'esclavage et à la colonisation est aujourd'hui le moteur économique de la région. Mais elle est aussi très décriée pour son impact à la fois social et environnemental. Un reportage de Lucille Gimbert.
Autour de nous, au nord-est de Cali, des champs de canne à sucre à perte de vue. Montée dans un calambuco, une sorte de calèche tirée par un tracteur qui servait autrefois à transporter les travailleurs de ces plantations, un guide promène une poignée de touristes. Au bout d'une parcelle, il pointe la végétation tropicale dense que l'entreprise sucrière Providencia a replantée le long de la rivière Amaime. Oriana Garcés est chargée de communication pour Asocaña, l'association qui regroupe les 12 entreprises exploitant la canne à sucre dans la région.
Ce sont des zones que nous restaurons en plantant des arbres locaux, des bambous, des arbustes pour que cela attire les animaux de la région. On parle de corridors écologiques car ces petites franges de forêt viennent se connecter à d'autres reliquats de végétation au bord des rivières, entre les terrains. On veut aussi les connecter aux zones humides, très importantes pour les oiseaux. oiseaux et les mammifères.
Restauration écologique, conservation de bassins hydrographiques dans les montagnes autour, centre de recherche et d'innovation, les grandes familles historiques de la canne à sucre dans la vallée du Cauca assurent qu'elles ne lésinent pas sur les moyens pour réduire l'impact de leur activité sur l'environnement. Claudia Calero, présidente d'Asocaña. Dans toutes nos cultures, nous utilisons des systèmes d'arrosage de haute technologie qui nous ont permis de réduire de 50% la consommation d'eau ces 10 dernières années. Cela fait plus de 40 ans que nous contrôlons les ravageurs de manière biologique. Nous n'utilisons aucun pesticide. Et dans nos processus de production de l'éthanol, par exemple, nous récupérons les vinasses, c'est-à-dire les résidus liquides de la distillation, pour fabriquer des engrais organiques pour nos champs. Tout ça laisse dubitatif Mario Pérez. Ce sont des chants de sirènes pour laver leur image, rétorque cet économiste à l'Institut Sinara de Cali. Pour ce spécialiste de la canne à sucre, après des décennies de mauvaises pratiques, le secteur a une dette environnementale colossale.
En s'étendant dans la vallée, la monoculture de canne à sucre a détruit la forêt sèche tropicale. Il ne reste que de tout petits morceaux de forêt. Et puis pour faciliter la coupe et augmenter la productivité dans les raffineries de sucre, on brûle encore la canne avant la récolte. C'est beaucoup moins le cas, mais cela se fait encore sur 40 000 hectares. C'est mauvais pour la biodiversité et les cendres causent des maladies respiratoires.
Au-delà des conséquences environnementales et sanitaires, les barons de la canne à sucre ont aussi accaparé les terres au détriment des populations autochtones d'abord, puis de l'agriculture familiale des descendants d'esclaves, ce qui alimente de violents conflits jusqu'à aujourd'hui.
Un reportage de Lucille Gimbert à retrouver sur RFI.fr. Le retour de l'actualité africaine dans 4 minutes. Mais d'abord de la musique, c'est dans la playlist RFI ce mois-ci. Mariama Siga Goudiaby, alias Mara Siga, une jeune compositrice et interprète sénégalaise, originaire de Casamance. Elle a été biberonnée au rythme traditionnel de sa région natale, mais elle s'est aussi intéressée au reggae, au blues ou encore au jazz pour fusionner le tout avec les sonorités africaines. Voici son dernier titre, Boukanak, Mon Peuple, en Diola, une collaboration avec le compositeur Audi, un titre qui invite à la solidarité et à la célébration de la diversité. Mara Siga en collaboration avec Audi, c'est dans notre playlist du mois sur RFI. C'est ainsi que s'achève cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tilaï Ravu à la réalisation. Merci aussi à Léa Boutin-Rivière qui était à la rédaction en chef. Restez avec nous, l'actualité africaine revient. C'est dans une minute. À tout de suite sur Radio France Internationale.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, comment prévenir les risques liés au monde du travail? Comment faire reconnaître certaines maladies étant liées à l'activité professionnelle? Demain, la consommation du sucre peut entraîner divers problèmes de santé comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Quels aliments privilégier ou éviter?
Priorité santé avec Sounou Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, RFI s'associe à la Croix-Rouge française qui lance un appel à dons pour soutenir la population touchée par la catastrophe d'une ampleur immense. Dans l'immédiat, la priorité pour aider les victimes est d'apporter de l'eau, de la nourriture, des produits d'hygiène et du matériel pour construire des abris. Chaque don compte. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Pour aider les volontaires de la Croix-Rouge sur place, faites un don sur croix-rouge.fr.